Bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio Judaïka. Bienvenue dans l'émission Kol Hillel, proposée par la communauté israélite libérale de Belgique, synagogue Beit Hillel. Gaëlle, bonjour.
Bonjour Jacqueline, bonjour Rabbi, bonjour chers auditeurs et auditrices.
Dans notre précédente émission, nous nous sommes entretenus avec le rabbin Marc Neger du commerce équitable et de l'éthique Ashrout. Si vous l'avez manqué, je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que nos précédentes émissions peuvent être téléchargées sur le site www.bethillel.org. Alors aujourd'hui, nous allons aborder, en la compagnie du rabbin Neger, une réflexion sur la liberté. Rabbi Neger, bonjour.
Bonjour Jacqueline, bonjour Gaël, bonjour chers auditeurs, bonjour chers auditrices.
Alors, dans un peu moins de 2 semaines débutera la fête de Pessah, la Pâque. Cette fête de Pessah célèbre la sortie d'Égypte du peuple hébreu, le moment où les Hébreux cessèrent d'être esclaves, où ils accédèrent à la liberté. Alors, la liberté est une notion fondamentale dans le judaïsme. Rabbi, vous allez dans quelques instants nous en parler, mais avant cela, je souhaiterais revenir sur quelques éléments de la réalité contemporaine de l'esclavage. L'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdites sous toutes leurs formes. » Alors, nonobstant ce texte qui date tout de même déjà de 1948, aujourd'hui, des dizaines de millions d'êtres humains sont encore corvéables à merci et vivent dans le désespoir le plus absolu aux mains d'exploiteurs sans pitié qui les affament, les maltraitent, les terrorisent. Alors, certaines organisations internationales avancent le chiffre de 30 millions d'esclaves de par le monde en 2014. Il s'agit là d'estimations, bien entendu, puisqu'on se trouve ici confronté à un phénomène qui est par nature le plus souvent caché, voire clandestin. Mais pas toujours. Ainsi, en Mauritanie, qui est le pays phare de l'esclavagisme toléré et où la couleur de la peau distingue le maître, qui est en fait un maure d'origine arabo-berbère, de ses serviteurs à peau noire, 150 000 des 3 800 000 habitants du pays, c'est-à-dire à peu près 4% de la population, sont ouvertement réduits à l'état d'esclaves par ascendance, c'est-à-dire qu'ils sont asservis de par leur naissance. L'esclavagisme moderne est généralement généré par la vulnérabilité qui permet une emprise totale sur la personne. L'esclavagisme moderne peut revêtir les formes les plus diverses et s'y vit aussi bien chez nous, dans les pays occidentaux, que dans les régions les plus pauvres de la planète. Une des formes d'esclavagisme la plus répandue dans le monde aujourd'hui a été citée dans notre dernière émission sur le commerce équitable. Il s'agit du travail forcé des enfants. Souvenez-vous, nous avions évoqué les conditions de vie effarantes de ces petits travaillant dans les champs ivoiriens de cacao, et aussi l'existence de ces autres enfants, parfois qui sont à peine âgés de 6 ou 7 ans, qui travaillent dans des manufactures chinoises fabriquant des smartphones. Ils ont des petites mains, donc c'est efficace. Mais il existe bien d'autres formes d'esclavagisme. Nous pouvons en citer quelques-unes. La prostitution forcée, l'utilisation des enfants dans le commerce international des stupéfiants, la vente de femmes dans le cadre de mariages forcés, la servitude pour dette, le trafic d'organes humains, le travail forcé domestique, l'utilisation d'enfants soldats, la mendicité forcée, j'en passe, et des moins bonnes encore. Alors, Rabbi Neger, la servitude, qui est hélas une réalité un peu partout dans le monde, comme je viens de l'expliquer, en ces débuts du XXIe siècle, c'est la première chose dont l'homme avait déjà à devoir s'affranchir dans la Torah. En effet, la première des 10 paroles énoncées dans la Torah nous dit ceci : « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. » Alors, n'est-ce pas étonnant d'avoir comme première valeur la sortie de l'esclavage, c'est-à-dire la liberté ? Alors, en d'autres termes, est-ce à dire que la liberté est une valeur fondamentale et que sans elle, l'homme ne peut rien.
Je peux répondre que par l'affirmative. La liberté, c'est justement parce que c'est au centre de la première parole et parce que c'est au centre de notre narratif dans la Torah, c'est la valeur centrale, la valeur primaire dans le judaïsme. Le judaïsme cherche à établir une société juste et une société juste ne peut commencer que par une société où l'esclavage n'a pas de possibilité d'exister. Et cette liberté, elle doit exister à la fois au niveau individuel, la liberté personnelle, et au niveau collectif, la liberté du peuple. D'ailleurs, c'est un peu surprenant parce que dans la première parole, quand elle est formulée, c'est formulé à bien d'autres endroits dans le Tanakh sous cette forme-là, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. On parle de la libération du peuple et Dieu s'adresse à toi, à la deuxième personne du singulier, ce qui veut dire qu'on a à la fois une balance entre la libération du pluriel, du peuple, et la libération de la personne au singulier. Les deux sont absolument nécessaires. C'est l'événement, la sortie d'Égypte, qui est mentionné le plus souvent dans la Torah et dans le Tanakh. Ça revient comme un leitmotiv sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors évidemment, ça revient pour établir notre relation en tant que juif avec Dieu, mais c'est aussi un rappel que cet événement est majeur dans notre compréhension du monde. On peut même se demander pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'être esclave? Pourquoi est-ce que les Hébreux, dans la bénédiction que Dieu offre aux patriarches, Dieu demande que les Hébreux commencent par être esclaves pour pouvoir être libérés. Qu'est-ce qui nécessitait ça? Est-ce qu'on a eu besoin de cet apprentissage spécifique pour mieux comprendre notre condition humaine? Il y a aussi autre chose dans l'expression du Shabbat, telle qu'on le trouve également dans les 10 paroles. On a deux références sur la raison d'être du Shabbat. Parce qu'il y a deux versions des 10 paroles. Dans la première, on célèbre le Shabbat en souvenir de la création du monde. Dieu créa le monde en 6 jours et le 7e, il se reposa. Mais en même temps, on nous rappelle qu'on doit célébrer le Shabbat en souvenir de la création, de la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, dans le texte du Kiddush, on mentionne les deux événements côte à côte. Donc finalement, les deux ont la même importance dans notre compréhension du monde. D'abord, le monde doit exister et être créé par Dieu. Et deuxièmement, nous, on a, en tant que peuple et en tant qu'individu, une expérience particulière qui est d'avoir été libéré d'Égypte.
C'est ça. Bon, vous expliquez à juste titre qu'on retrouve la notion de sortie d'Égypte très souvent dans le Tanakh. Mais quand on reprend la première parole, le texte biblique suggère que ce n'est pas l'homme qui a libéré l'homme de l'esclavage, mais le divin. Tu te souviendras que tu fus esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir d'une main puissante et d'un bras étendu. C'est pas l'homme qui s'est libéré quand on prend le texte de manière littérale. Comment comprendre cela?
J'ai tenté de prendre la contraposée, c'est-à-dire finalement, si c'est Dieu qui libère l'être humain, alors c'est l'être humain qui rend l'être humain esclave. Celui qui peut imposer sa volonté à l'autre par la force, ce n'est pas Dieu, bien qu'il en ait la potentialité et bien que notre tradition dise que certaines choses viennent comme des punitions divines. En réalité, on sait très bien que dans l'histoire, c'est l'être humain qui va asservir l'être humain. D'ailleurs, on peut se poser la question tout de suite dans la Haggadah, quand la Haggadah va commencer à nous raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, il y a cette première histoire où on dit Kol Yemei Hayecha, tu dois en parler tous les jours de ta vie. Et les rabbins vont dire, oui, ça veut dire, évidemment, dans ce monde-ci, mais également dans les temps messianiques. Et la question est de se poser, pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à mentionner Pessah dans les temps messianiques qui sont censés être un âge d'or pour l'humanité? Dans les temps messianiques, en théorie, l'esclavage ne peut plus exister. Donc, à quoi ça sert de continuer à parler de la sortie d'Égypte, vu que ça n'est plus d'actualité? En fait, là aussi, c'est bien nous dire, peut-être que ça reste d'actualité parce que les temps messianiques étant aux mains des êtres humains à nouveau, ils conservent une espèce de fragilité, de possibilité de retour à l'esclavage et qu'on doit toujours garder l'être humain sous surveillance.
Oui, mais L'exemple de la révolution russe, par exemple, ou de d'autres révolutions, ou l'homme, ou le printemps arabe. Ou...
J'aime bien la révolution russe parce qu'on sait très bien qu'il y avait beaucoup de juifs qui étaient très engagés dans la révolution socialiste et qu'ils y voyaient réellement un idéal d'ordre messianique. Le problème, c'est que dans le cadre de la révolution uniquement, l'être humain croit pouvoir se libérer entièrement tout seul. Et jusqu'à un certain point, il y parvient. Et puis, il y a quelque chose qui tourne mal, qui passe de travers. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on nous rappelle que c'est Dieu qui nous libère d'Égypte. C'est que cette libération ne peut pas fonctionner complètement sans Dieu. Et quand je dis ça, je ne parle pas de miracle, je ne parle pas de Dieu qui ouvre la mer pour que les Hébreux puissent passer. Je parle de la possibilité que ceux qui font la révolution laissent une place pour que Dieu puisse être présent. Or, dans la révolution russe, justement, les révolutionnaires ont rejeté toute idée de Dieu et en soi-même, ils ont posé la semence de ce que va devenir la révolution et du fait que l'être humain va reprendre le dessus et va recréer un tyran. On a même ça exactement dans la Torah quand on nous raconte la sortie d'Égypte et le comportement de Pharaon. D'un côté, la Torah nous dit que Dieu va exercer sa vengeance sur les dieux de l'Égypte. Donc finalement, c'est un combat titanesque qui se passe dans les cieux. Mais celui qui prend sur lui de défendre l'Égypte, c'est Pharaon, c'est un être humain. Et c'est pour ça que c'est un tyran. Il se croit l'égal d'un dieu. Et ce danger-là, c'est celui qui peut remettre en cause la possibilité d'être de la liberté ou des temps messianiques. Et d'ailleurs, justement, Pharaon est le tyran qui a servi les Hébreux.
En fait, bon, je voudrais quand même encore revenir 2 minutes sur cette histoire de révolution, parce que quand on prend la Révolution française, il y a aussi le divin est complètement rejeté.
Il y a cette idée de l'être suprême qui est essayée quand même.
Oui, voilà. Alors, si on prend la notion du divin non plus au plan de la lettre ou sous forme d'un anthropomorphisme quel qu'il soit, mais qu'on en vient à l'idée qu'il s'agit d'une métaphore pour dire que l'être humain, quoi qu'il fasse, va toujours faire attention et rendre des comptes.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est que, comme je disais, on n'a pas besoin d'un Dieu qui fasse des miracles pour laisser une place à Dieu. On a besoin de se rappeler qu'en tant qu'être humain, on doit des comptes à quelque chose qui est supérieur à l'être humain. Oui. Et c'est ça qui nous rend responsables les uns vis-à-vis des autres et qui fait que certains aspects obscurs de notre nature, ce que la tradition appelle le Yetzer Hara, ne peut pas prendre le dessus. Parce que autrement, on est tenté d'imposer notre volonté et de nier l'existence ou la légitimité du désir de l'autre. C'est le principe même de la liberté. Quand on dit que sa liberté s'arrête là où commence celle des autres, c'est ce subtil équilibre qui fait que entre les êtres humains, la légitimité d'être et la légitimité d'être libre est forcément la même l'un par rapport à l'autre.
En fait, ça oblige l'être humain, quoi qu'il fasse de sa vie, à devoir toujours prendre conscience qu'il y a une limite.
Exactement.
Ce qu'il veut faire. C'est le gars qui veut libérer son peuple et puis qui finit par devenir un tyran lui-même, en fait.
Exactement.
Alors, Pessard nous interroge sur la notion de liberté. La notion de liberté est associée, bien évidemment, à la notion de libre arbitre. Je suppose que le libre arbitre est donc la pierre angulaire du judaïsme.
Le judaïsme a ceci de particulier qu'il considère le libre arbitre, la liberté personnelle, comme l'élément fondateur, non pas de l'être humain, mais de l'humanité même. La tradition nous dit que le libre arbitre, c'est ce qui donne un sens à Dieu créa l'être humain à son image. Et son image, évidemment, ce n'est pas un anthropomorphisme d'un dieu avec 2 jambes et 2 bras, mais d'un être humain avec la même capacité de contrôle sur son destin qu'est le libre arbitre. Il y a quelque chose d'important d'ailleurs concernant Pessah, c'est qu'il y a souvent un contraste entre Pessah et Yom Kippour. Yom Kippour, c'est quelque chose où on doit sortir, on doit aller à la synagogue, il y a une certaine gravité. D'ailleurs, même les juifs de Kippour vont hésiter à amener leurs enfants à la synagogue parce que c'est quelque chose de trop grave ou de trop lourd, trop compliqué de les faire jeûner pour en discuter. Mais Pessah, c'est complètement différent. C'est quelque chose qui n'a pas lieu dans le domaine de la religion institutionnelle qu'est le bâtiment même de la synagogue. C'est quelque chose qui a lieu dans nos maisons. On n'a besoin d'aller nulle part, on est chez nous. Et en même temps, on va impliquer les enfants complètement. Il y a un grand nombre de rites, d'ailleurs, autour de la fête de Pessah, où la présence des enfants est organisée. Le fait qu'on fasse chanter le Manishtana aux plus jeunes, le fait qu'on va cacher ou payer la rançon en fonction des traditions de la Ficomane pour les garder jusqu'au bout. Un grand nombre des chants qu'on a dans la fête de Pessah, ce sont des comptines. Et on apprend même à compter lors de ces chansons. Donc c'est vraiment fait pour les enfants. Et puis la fête de Pessah, c'est aussi une fête d'ouverture dans le sens où on va inviter des amis, y compris d'ailleurs même des amis non-juifs, pour partager l'idéal de liberté que représente la fête de Pessah. Alors j'ai envie d'en profiter pour tordre le cou à une légende urbaine qui est l'interprétation de Exode 12:48 qui dit que aucun incirconcis ne peut participer au, non pas au CDR, mais au sacrifice de Pessah. Si on regarde le texte, c'est très clair. Le texte dit que les incirconcis, et donc les non-juifs en général, ne peuvent pas participer au sacrifice de Pessah. Quel rapport avec le CDR aujourd'hui? Absolument aucun. Il n'y a pas de sacrifice de Pessah depuis la destruction du temple. Donc on peut très bien inviter tous nos amis non-juifs. Et puis je vous rappelle quand même qu'à la table, il y a quand même la moitié des convives qui ne sont pas circoncis. Je parle des femmes. Et elles participent quand même. En fait, finalement, je pense que ce que veut nous dire ce texte de l'Exode, d'un côté, il nous parle du sacrifice de Pessah, et donc techniquement, il ne nous parle pas du CDR. Et d'un autre côté, ce qu'il veut nous dire en disant qu'aucun incirconcis ne peut y participer, c'est que quelqu'un qui aurait par définition une attitude qui soit contraire au message de la Torah vis-à-vis de la liberté ne devrait pas y participer.
C'est ça. Alors, vous parliez déjà tout à l'heure de la Haggadah de Pessah. Parlons-en justement dans la Haggadah de Pessah. Il y a un grand absent, c'est Moïse. Alors, quel enseignement peut-on retirer de cette absence? Et puis d'abord, première avant-question, cette absence dans la Haggadah de Moïse est-elle volontaire?
Les rabbins font rarement quelque chose par inattention. Et en même temps, quand ils créent quelque chose qui doit nous choquer tellement c'est énorme, finalement, ils mettent le doigt sur quelque chose où ils veulent qu'on l'en réfléchisse. Donc l'absence de Moïse, elle n'est absolument pas là par hasard, ou plutôt absente par hasard. Y a une première lecture, peut-être un peu simpliste et piétiste, qui veut que finalement, on affirme par là que celui qui nous libère, c'est l'Éternel, que ce n'est pas l'être humain qui agit. Aucun problème là-dessus, on l'a déjà un peu évoqué. Il y a besoin de laisser une place à Dieu pour que la libération puisse exister. Mais en même temps, on peut renverser la question, c'est-à-dire l'absence de Moïse, qui est le représentant humain de celui qui mène la sortie d'Égypte, c'est quel est le rôle de l'être humain dans la libération? Quelle est sa part de potentiel et d'action? Et la réponse, je crois qu'on la trouve également dans la Haggadah, puisque c'est la Haggadah qui rend Moïse absent. La Haggadah vient nous présenter un peu les choses. On a ce fameux récit dans la Haggadah de ce qu'on appelle le Seder de Bnei Brak, où on a un certain nombre de rabbins qui sont en train de célébrer, a priori, le Seder. Et en réalité, est-ce qu'ils sont vraiment en train de célébrer le Seder ou est-ce qu'ils sont en train de préparer la libération? Tous ces rabbins sont réunis à l'aube de la révolte de Bar Korba, de la deuxième révolte contre les Romains en 132, qui va durer jusqu'en 135, et qui va avoir une répression absolument terrible. Et pourquoi est-ce qu'on nous mentionne ces rabbins alors que ceux qui nous racontent la Haggadah savent que cette révolte ne va pas fonctionner, que cette révolte va se terminer dans un bain de sang et que l'action de l'être humain ne va pas leur permettre d'obtenir le succès? S'il s'agissait de nous dire uniquement les êtres humains ne peuvent rien faire, je pense qu'ils enfonceraient le clou ailleurs. Et ils ne le font pas. Je pense que ce qu'ils nous disent par là, c'est que même si ça ne doit pas marcher, on a quand même l'obligation d'agir pour notre libération. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Haggadah nous invite à le redire et à poser comme une espérance l'an prochain à Jérusalem. C'est-à-dire que même si ça n'a pas marché cette année, eh bien, nous devons recommencer l'an prochain. Et donc, il y a un appel récurrent, pas à la révolte, parce que ça, ils ont bien compris que militairement et politiquement, ça n'avait pas marché, mais à la remise en cause de la tyrannie. Et peut-être qu'il faut utiliser notre technique, peut-être qu'il faut utiliser d'autres moyens, peut-être que c'est uniquement tactique la raison pour laquelle cette révolte n'a pas fonctionné, mais le besoin de libération, le besoin de se libérer de la tyrannie, lui, il reste réel et il est renouvelé chaque année.
C'est ça. Alors, Rabbi, quand on parle de libre arbitre, on parle de responsabilisation des individus. Est-ce que cette responsabilisation des individus est toujours constante? Est-ce que il y a une part pour le déterminisme dans le judaïsme, ou bien est-ce que le libre arbitre est la règle absolue?
Le libre arbitre, comme je l'ai exprimé, c'est la règle absolue pour l'être humain, et en même temps, on parle de l'omniscience de Dieu. Mais l'omniscience de Dieu, elle est, limitée à la capacité que Dieu a donnée à l'être humain. C'est ce que Rabbi Akiva, qui est pourtant d'ailleurs celui qui va mener la révolte de Bar Korba et qui va être supplicié, dit. Tout est prévu, pourtant le libre arbitre prime. Il y a un subtil équilibre encore entre le fait qu'on affirme l'omniscience de Dieu et le libre arbitre de l'homme. L'omniscience de Dieu, c'est comme si Dieu pouvait connaître tous les chemins possibles, mais que le choix du chemin qui aura effectivement lieu dans ce monde reste le choix de l'homme. Et puis, c'est fondamental parce que s'il n'y a pas de libre arbitre, la responsabilité dont nous parlions avant n'existe plus. Si je n'ai pas de libre arbitre, comment puis-je être un criminel? Enfin, je peux être un criminel, mais je suis un criminel irresponsable.
C'est une notion du reste qu'on retrouve aujourd'hui en droit pénal contemporain. C'est que la personne irresponsable, parce qu'elle n'a pas toutes ses facultés mentales, est considérée et traitée comme pénalement irresponsable. C'est le cas aussi des enfants mineurs qui ne sont pénalement pas responsables. C'est la même chose, en fait.
Absolument, absolument. Et les rabbins, dans leur lecture de la Torah, et pas uniquement du livre de Job, qui pose le problème de la théodicée, et donc de...
C'est quoi la théodicée ?
La théodicée, c'est l'existence du mal dans le monde.
C'est ça.
Comment est-ce que Dieu peut laisser le mal être dans ce monde ? Et quel est le rôle de l'homme dans l'existence du mal également ? Il pose la question à propos du premier crime de l'humanité. Le premier crime de l'humanité, évidemment, c'est Caïn tuant son frère Abel. Et ils posent une question terrible, c'est le rôle de Dieu dans ce crime. C'est-à-dire, on a dans le texte de la Torah, Dieu qui s'adresse à Caïn, « Si tu ne fais pas attention, le péché est à ta porte, la faute est à ta porte. » Donc Dieu sait déjà que ça va mal tourner, ou se doute déjà que ça va mal tourner, d'autant qu'il a lui-même accepté le sacrifice d'Abel et refusé le sacrifice de Caïn. Donc il a, à juste titre ou non, attisé une jalousie entre les deux frères. Et les rabbins vont faire une comparaison, ils vont comparer Dieu à un empereur lors d'un combat de gladiateurs. C'est très très surprenant, parce qu'ils disent, avec l'empereur on a une chance, l'empereur il peut faire grâce, et toi l'Éternel, tu n'as pas utilisé ton droit de grâce pour sauver Abel. Ils ne sont pas en train d'exonérer Caïn de sa violence, de son geste, mais ils sont en train de dire, Abel t'aurais pu le sauver. Et d'une certaine manière, tu aurais pu sauver Caïn aussi de lui-même, parce qu'il n'aurait pas amené son geste jusqu'au bout, exactement comme dans la Hakeda, dans la ligature d'Yitzhak. Les cieux interviennent au dernier moment pour empêcher Abraham de sacrifier son fils. Eh bien, au moment du meurtre de Abel, Dieu n'intervient pas. Et les rabbins ne se privent pas de le faire remarquer à Dieu.
Oui, mais... Donc, il y a une accusation violente qui est portée contre le divin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de système de récompense ou de rétribution. Quel est le problème de la rétribution par rapport à ça? Elle fonctionne pas. Si on, on commet quelque chose de mal, on va être puni, ou on est puni parce qu'on a fait quelque chose de mal. On peut se poser la question peut-être par rapport à la Shoah. Ça, il y a eu des interprétations qui laissent frémir par rapport à l'existence même de la Shoah, par exemple.
Effectivement, ça pose le problème de la Shoah, ça pose le problème de la rétribution. Les rabbins de l'Antiquité croient foncièrement à la rétribution, mais pas forcément en ce monde, et c'est la raison même de l'inclusion du livre de Job dans le Tanakh. Tout le Tanakh, quasiment, affirme la rétribution divine.
Ça veut dire quoi? Vous pouvez juste
la rétribution divine, les gentils seront récompensés et les méchants seront punis. Et a priori, dans le Tanakh, très souvent, ça a lieu directement en ce monde. Et puis, on a ce livre qui est complètement à part, qui est le seul dans le Tanakh
Le
livre de Job, qui a une attitude complètement différente et qui dit « Oui, mais regardez le monde autour de vous, ça ne marche pas comme ça. » Et les rabbins acceptent ces deux visions, c'est-à-dire qu'il y a la vision d'un idéal, il y a la vision de la manière dont ils essayent de lire le monde, et puis finalement, eh bien, il y a des méchants qui prospèrent et des justes qui souffrent. On en reparlera peut-être un petit peu
d'accord.
tout à l'heure.
Ok, ça va. Alors, pourquoi est-ce que vous considérez qu'il est absolument indispensable de lire la Haggadah de Pessah dans la langue vernaculaire?
C'est une évidence à partir du moment où on admet que la Haggadah, comme son nom l'indique, Haggadah, ça veut dire un conte qu'on doit raconter, qu'on doit conter, qu'on doit révéler, est un récit. Dans la Haggadah, il n'y a quasiment pas de prière, quasiment pas de liturgie. Il y en a un petit peu vers la fin, parce que dans la joie, on va dire merci, on va faire le Birkat Hamazon, il va y avoir quelques prières à la fin. Mais sur le fond, la Haggadah, c'est avant tout une histoire qui est là pour nous interpeller, pour nous raconter quelque chose et pour nous faire poser des questions. Le narratif, le fait d'avoir un support qui nous raconte quelque chose, c'est la manière de notre tradition de nous enseigner quelque chose. Et donc, si on utilise une langue qu'on ne comprend pas, on rend la Haggadah absolument insignifiante en termes de portée. D'autant plus quand on s'adresse à des enfants. On ne peut intéresser les enfants que si on leur parle leur langue, même les adultes, hein, soyons francs. Les adultes, s'ils ne sont pas capables de comprendre, ils ne peuvent pas avoir accès au sens du texte. En même temps, l'hébreu reste central, mais sur un plan différent. L'hébreu, et j'ai parlé de comptine, j'ai parlé de chant, l'hébreu, c'est notre attache émotionnelle et notre attache historique, nos racines. C'est-à-dire que l'usage de l'hébreu nous permet de nous rappeler que ce texte a traversé plus de 2000 ans et il fait le lien à travers toutes les générations jusqu'à la Torah. Donc c'est dans ce sens-là que l'hébreu est fondamental. Et on doit utiliser l'hébreu pour les chants, peut-être pour quelques passages de la Haggadah. Mais le fondamental de la Haggadah, on doit le faire, je dirais, pas spécialement en français, mais dans une langue que les gens attablés comprennent.
C'est ça. Alors, je vous propose une petite pause musicale. Et puisqu'on parle beaucoup de liberté de la fête de Pessah, nous allons écouter une musique de Pessah chantée par le chœur de la Beit Tikvan Synagogue, qui est une synagogue conservative à Toronto. Yeah. Le principe du libre arbitre est le choix personnel dicté par sa propre conscience morale entre le bien et le mal. Alors le mal, parlons-en justement, on l'a déjà un tout petit peu évoqué tout à l'heure, mais on va y revenir de manière un peu plus approfondie maintenant. À la fin du mois d'avril se commémorera Yom HaShoah, qui est devenu un événement important dans de nombreuses synagogues libérales. Pourquoi l'intégration de cette nouvelle date liturgique ?
Parce que jusqu'à présent, les dates qui célèbrent ou qui commémorent des événements de persécution dans notre histoire ne conviennent pas à l'évocation de Yom HaShoah. On a un certain nombre de commémorations, en particulier, la plus importante, c'est le 9 Av, le deuil de la destruction des deux temples et d'autres événements dans l'histoire, comme l'expulsion des Juifs d'Espagne. Ce sont des moments où nous nous attardons à la fois sur la mémoire des martyrs et sur la difficulté de notre destin d'avoir été opprimé autant de fois. Mais jusqu'à présent, je dirais, la réponse consensuelle, et on parlait de rétribution, c'est de dire « il nous arrive quelque chose de mal, c'est qu'on a fait quelque chose de mal ». Depuis toujours, ça a été la réponse à peu près standard. Donc finalement, si collectivement il arrive un malheur au peuple, si le temple est détruit, quel est le péché que le peuple a pu commettre ? Il y a toujours eu des rabbins pour ne pas accepter cette réponse-là, mais c'était un peu anecdotique quantitativement jusqu'à la Shoah. Avec la Shoah, l'énormité du traumatisme et l'énormité de l'horreur mise en œuvre fait que, pour beaucoup de gens, cette réponse de la rétribution qui est « Ok, quelle faute peut-on avoir commise pour être aussi puni ?» n'est plus une réponse acceptable. Au point même que certains pensent, expriment ça sous la forme de dire « La doctrine de la rétribution appliquée à la Shoah est une forme de blasphème. Comment est-ce que Dieu, non pas pourrait laisser faire, mais pourrait de lui-même invoquer quelque chose d'aussi terrible sur le peuple d'Israël, ou sur n'importe quel peuple d'ailleurs. Donc finalement, on a besoin d'un nouveau type de réponse. Et si on a besoin d'un nouveau type de réponse, ça ne peut pas avoir lieu le même jour. On peut faire la comparaison si on revient à l'histoire de la Haggadah avec la révolte de Bar Korba. Et j'ai évoqué la brutalité, la violence de la répression romaine lors de la révolte de Bar Korba. Un nombre de juifs en Judée qui ont été massacrés, déportés, vendus comme esclaves a été gigantesque. Mais finalement, c'était, entre guillemets, dans l'air du temps. C'était dans les mœurs acceptables, aussi horrible que ça puisse paraître. Parce que ça vient poser une question, surtout beaucoup de gens parlent du fait que les enfants aussi aient été massacrés dans la Shoah. Je ne crois pas que le côté quantitatif soit la clé de lecture. Parce que ça voudrait dire alors que, ok, le massacre de 100 enfants, c'est profondément inacceptable, mais si je dis ça comme ça, ça veut dire qu'il y a un chiffre à partir duquel ça serait peut-être supportable ? Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait fermer les yeux sur le massacre, le martyr d'un seul enfant ? C'est pas possible non plus.
Évidemment.
Donc la question, elle se pose vraiment, le chiffre y participe, mais ce n'est pas la clé de lecture de la Shoah, je ne pense pas.
C'est ça. Alors de plus en plus souvent, les synagogues libérales assortissent Yom HaShoah d'une nouvelle Megillah qui lui est spécifiquement destinée. Alors est-ce légitime d'ainsi inventer un nouveau rouleau dédié uniquement à la Shoah ?
C'est une excellente question, c'est-à-dire que ce qu'il va derrière, c'est l'idée de révélation. un certain nombre de synagogues libérales et de synagogues conservatives lisent cette Megillat HaShoah à l'occasion de Yom HaShoah. Qu'est-ce qu'elles veulent dire par là en choisissant une forme qui, à la fois, reprend exactement notre tradition, c'est-à-dire nous avons un rouleau dans lequel nous allons lire dans un hébreu pseudo-biblique, et en même temps, c'est une manière de réouvrir le canon biblique et donc de dire que la révélation, ce que Dieu nous enseigne, continue. Mais continue d'une manière pas uniquement comme on le comprend traditionnellement dans la lecture des textes, mais dans le fait qu'il puisse y avoir de nouveaux textes, comme si Dieu nous parlait à nouveau. Et ça, c'est une manière de dire que la Shoah est un événement qui est du même ordre qu'on peut comparer à la révélation sur le mont Sinaï. En tout cas, c'est la position d'Elie Wiesel. Je pense qu'elle est un peu exagérée, mais elle nous montre bien la difficulté de comprendre un événement auquel même notre histoire ne nous a pas préparé. On a également cette, un midrash de Rabbi Abdimi Bar Hama qu'on trouve dans le traité Shabbat du Talmud, qui nous dit que au moment justement de la révélation sur le mont Sinaï, Dieu a pris le mont Sinaï, l'a mis au-dessus des enfants d'Israël et a dit « Si vous n'acceptez pas ma Torah, ce sera votre tombeau. » Et juste après, il dit que les enfants d'Israël réacceptèrent la loi à l'époque d'Achashverosh, c'est-à-dire le récit de Esther, où à nouveau l'existence même de tout le peuple est remise en question. Et une des questions qu'on ne peut pas éviter, même si elle peut paraître terrifiante, c'est de dire est-ce que notre compréhension de la Torah existerait ou ne prendrait ce sens que quand nous nous sentons profondément en danger. Je n'ai pas dit que je souscrivais à ça, mais la question elle est sous-jacente dans la présence même de ces événements où notre existence, même par Dieu, serait mise en question. Et finalement aussi, il y a non pas la question que nous pose Dieu, mais comment nous réagissons. C'est-à-dire que la question, c'est pourquoi voulons-nous rester juifs malgré les circonstances? Et ça, c'est une question que nous pose directement la Shoah. Pourquoi est-ce que malgré les souffrances que cela implique, nous sommes convaincus que nous devons rester juifs? Et on est peut-être lié à cet idéal de liberté dont on a parlé tout à l'heure. Mais on n'a pas pour autant abandonné notre manière traditionnelle d'espérer en cette liberté pour passer à une autre manière.
Alors pour terminer ce sujet de Yom HaShoah, j'ai envie de vous poser tout de même encore une dernière question. Y a-t-il une construction religieuse de Yom HaShoah?
Je pense que c'est quelque chose qui est en cours, qui est expérimenté aujourd'hui. Et la Megillat HaShoah, qu'on continue à la lire dans 50 ans ou qu'on ne la lise plus dans 50 ans, parce que c'est quelque chose de très récent et que les synagogues essayent, elles cherchent une manière, une liturgie qui convienne. Les manières qu'on a jusqu'à aujourd'hui ne conviennent pas. D'un côté, on a la Megillah, et ça rappelle un peu le livre d'Esther, sauf que cette fois-ci, l'histoire se termine mal, même si nous ne disparaissons pas complètement. Et puis, d'un autre côté, il y a la Haggadah, qui nous parle seulement d'espérer, mais qui ne nous raconte pas un événement précis, ou alors uniquement en filigrane. Aujourd'hui, par exemple, pour Yom HaShoah, on a un très 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 grand nombre de communautés, la nôtre entre autres, à Bruxelles, où il y a cette lecture des noms des déportés, du pays ou de la ville, ou du moins le rappel de nos martyrs. Cette notion de Yizkor, de se rappeler, elle est très traditionnelle et c'est une nécessité. On a besoin d'évoquer la mémoire de ceux qui sont partis. Mais ce faisant, on ne change pas du principe de nos liturgies traditionnelles. C'est pour ça que la Megillat HaShoah est intéressante, c'est qu'on a besoin, pour pouvoir comment entamer une véritable réflexion sur ce que nous enseigne la Shoah, sur y a-t-il quelque chose que Dieu nous révèle au travers de cet événement, on doit passer à un autre type de liturgie. Et là, comme je l'ai dit, Tisha B'Av, qui est uniquement dans la Lamentation, ne convient pas. on doit expérimenter, on doit essayer des choses.
Okay. Mais merci beaucoup, Rabbi Neger. Puisqu'on parle beaucoup de liberté aujourd'hui, je vous propose de souffler un petit peu en la compagnie de la magnifique voix de Timna Bauer qui nous chante une chanson dont le thème est « Vol pigeon ». C'est Yona. Les arrangements sont de son mari Elias Meiri. Ils ont tous les deux constitué un répertoire musical à partir de toute la richesse et de la diversité de la musique juive qui est ici basée sur la tradition yéménite. Le Neger vient de nous apporter un éclairage fort intéressant sur la liberté à laquelle est associée la fête de Pessah. Alors Gaëlle, je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre notre manière de commémorer la sortie d'Égypte et la pratique traditionnelle liée à cette fête.
Mais en effet, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, je serai assez brève au niveau pratique, non que le Seder soit court, bien au contraire. Mais parce que les juifs libéraux, comme tous les juifs pratiquants qui perpétuent le Seder, nous le célébrons dans le respect de la tradition. Donc, nous passons par toutes les étapes, nous disons les brachot, mangeons les aliments requis et nous interrogeons le sens. Certains pensent en effet trop souvent que le judaïsme libéral est une sorte de judaïsme laïque, éloigné de la tradition et des pratiques de nos pères. Ils ont tort. Nous sommes des juifs à part entière, attachés aux pratiques porteuses de sens et aux messages de la Torah, tant écrite qu'orale. D'ailleurs, pour la petite histoire, je me souviens, et c'est un paradoxe absolu, qu'un jour, un juif anversois, apparemment non pratiquant, m'avait invité un vendredi soir pour aller au restaurant. Et quand je lui ai dit que le vendredi soir, j'étais à la synagogue, il a répliqué « Tu dois certainement être une juive libérale pour aller à la synagogue le Shabbat ». Comme quoi, quand on est dans le rejet de l'autre, l'autre qu'on ne connaît pas, les critiques peuvent aller dans tous les sens, contradictoires. Pour les uns, on nous catalogue de laïcs, et pour les autres, on est trop pratiquants. Mais revenons à notre propos. S'il y a une différence dans notre pratique du Seder, mais le rabbin Neger vient d'en parler, c'est parce que nous disons aussi une série de textes en français. Il est fondamental que chacun puisse comprendre ce qui se dit pour en tirer le message. Je me souviens avoir passé quelques sédères, il y a longtemps, auxquels participaient une fois 50, une autre fois 70 juifs, et où la totalité des textes étaient dits en hébreu et araméen, durant de longues heures, alors que je savais qu'il n'y avait que 3 ou 4 personnes qui comprenaient l'hébreu. Plus incroyable encore, en famille où personne, y compris l'officiant, ne comprenait un mot d'hébreu. Alors, aucun commentaire, aucune explication, mais le rituel était accompli et les gens étaient contents, enfin certains. Pour nous, outre le rituel qui est évidemment fondamental, il est important que l'on sache de quoi on parle. D'ailleurs, si le texte de la Haggadah est parfois en araméen, c'est notamment parce que c'était la langue du peuple et qu'il était primordial à l'époque, comme aujourd'hui, qu'on comprenne ce qu'on disait, de quoi il s'agissait. Et voilà, l'araméen d'hier, c'est le français d'aujourd'hui dans notre pays. Nous connaissons tous cette chanson, évidemment, et depuis qu'on est tout petit, à savoir le Manishtana. Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres? Pourquoi nous mangeons tel ou tel aliment? Pourquoi nous trempons l'aliment dans le sel? Pourquoi? 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 Le pourquoi, c'est le sens de toute cette soirée. Non pas pour répéter comme des perroquets, mais pour comprendre. Alors oui, nous disons beaucoup de textes en français. Oui, nous interrogeons les convives en français. Et oui, en cela, nous sommes différents de beaucoup d'autres juifs. Et oui, nous sommes pour un judaïsme moderne où chacun peut comprendre pourquoi cette nuit est différente et pourquoi en cela nous sommes parfois différents d'autres.
Merci Gaëlle. Alors, ces quelques précisions étant dites concernant les pratiques liées à la fête de Pessah, quelles lettres de l'alphabet hébraïque vous proposez-vous d'explorer pour nos auditrices et auditeurs aujourd'hui?
Ce sera un peu différent des autres émissions. En fait, les autres fois, j'ai parlé d'une lettre. Et je me suis dit que ce serait trop statique si je parlais d'une lettre, alors que Pessah, la période vers laquelle nous allons et celle dont nous parlons aujourd'hui, c'est le mouvement. Donc je vais plutôt parler d'une lecture de cet alphabet sacré qu'est le nôtre pour vous parler du chemin de vie qu'il nous propose. Et on va partir de la première lettre de l'alephbet, le Aleph. Comme toutes les lettres de notre alphabet, il a une valeur numérique qui est porteuse de sens. Alors, première lettre, valeur numérique 1. La prière la plus prononcée, le schéma Israël, qui commence par ces mots, schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Nous commençons donc par le monde de l'Éternel. Dieu est Kadosh, saint. Mais saint se traduit aussi par séparé. Le monde de Dieu est séparé du nôtre. D'ailleurs, visuellement, cette lettre, qui comme toutes les autres s'inscrit dans un carré, est formée d'une diagonale qui coupe le carré en deux, avec en haut à droite un yod et en bas à gauche un yod en miroir. Le monde d'en haut et le monde d'ici-bas, séparés. Nous commençons donc par la lettre qui représente l'Éternel. Ensuite viennent les lettres qui concernent notre monde, le monde des humains, c'est-à-dire tout le reste de l'alphabet. Et le reste de l'alphabet commence par la deuxième lettre, le bet, la dualité, donc ce monde des humains. Mais bet se traduit aussi par la maison, c'est-à-dire l'abri humain par excellence. Notre vie se construit dans la maison, dans le foyer. Le couple va y donner vie, va y fonder sa famille. Et l'enfant va être protégé, choyé. Il va grandir et petit à petit, il va souhaiter prendre sa liberté, son indépendance, son envol. Comme le peuple hébreu qui voulait être libre le temps venu. Mais pour ça, il faut oser partir, quitter la sécurité. Même si parfois, cette sécurité est difficile et problématique. Il faut surtout oser aller vers l'inconnu. Voilà notre jeune devenu adulte qui va se lancer et partir comme est parti le peuple hébreu. En tout cas, ceux qui ont osé le faire. Prendre leur avenir en main et ajoutons l'avenir de leur descendance en main. Revenons, comme toujours, à la graphie de la lettre. Elle nous parle aussi de la marche en avant parce qu'elle est inscrite dans un carré où nous trouvons trois côtés fermés et un côté ouvert. Celui de gauche, c'est-à-dire du sens de la marche, puisque nous écrivons de droite à gauche. Comme si déjà, au lieu même de sa naissance, dans le foyer, tout était en place pour que l'être humain soit en situation de prendre sa liberté. Une porte est toujours ouverte dans la maison, dans un sens pour accueillir l'autre, bien sûr, mais dans l'autre, pour partir. Nous pouvons faire le parallèle avec Pessah. Première fête, on l'a dit tout à l'heure, premier mois de l'année, première parole. L'Éternel a inscrit la liberté dans l'homme. Nous sommes faits pour aller vers notre liberté, vers la liberté, la nôtre et celle des autres. D'ailleurs, une fois de plus, le dessin de la lettre nous l'indique bien. Comme le dit le Midrash, « Le haut nous est barré, ne cherche pas à connaître ce qui se trouve au-dessus de toi, de Dieu ». Tu ne peux rien savoir. Barré aussi, le côté arrière, ne cherche pas à connaître ce qu'il y avait avant la création. L'histoire, oui, les hypothèses antérieures, non. Barré, enfin, le bas, ne cherche pas à connaître ce qu'il y a sous toi, c'est-à-dire après la mort. Quand il y sera, ben, tu verras. Le juif n'a qu'une voie, qu'un chemin, aller de l'avant. Et comment aller, comment partir? Avec un chameau, bien sûr. Kamal, Gimel, Kamel, le chameau. La troisième lettre de l'alphabet. Le chameau, animal du désert par excellence, archétype de la sobriété et de la tempérance, de l'endurance, de la patience, comme devront l'être les Hébreux dans le désert. Loin de tout repère, de toute sécurité, de toute sédentarité, ils devront dépasser et devenir eux-mêmes. Le Gimel invite à la méditation sur l'Exode.
Merci beaucoup Gaëlle. Je vous propose une autre version que celle qu'on a l'habitude d'entendre sur une musique de Pessah, à nouveau interprétée par la Beit Tikva Synagogue de Toronto.
Oh,
présent passer à l'agenda communautaire de la synagogue Beth Hillel. Ce vendredi 4 avril prochain, comme chaque premier vendredi du mois, l'office de Kabbalat Shabbat familial, le Dor Vador, débutera à 18h30. Le lundi 14 avril, le Seder communautaire de Pessah débutera à 19h précise. Il reste quelques places pour participer à ce Seder. La réservation peut encore se faire ces tout prochains jours en téléphonant au secrétariat au 02 332 25 28. Le Shabbat 19 avril, après l'office, se tiendra le cercle d'études de la paracha de la semaine. Le lundi 21 avril à 10h30 débutera l'office du dernier jour de Pessah. Et enfin, le mardi 22 avril de 15 à 17h, réunion conviviale Café Clash des seniors, comme tous les troisièmes mardis du mois, on y goûtera et discutera autour du thème du jour. Merci à vous Gaël de nous avoir raconté le chemin de vie que nous propose l'alphabet hébraïque et puis de nous avoir aussi parlé un petit peu de la pratique de Pessah. Rabbi Neger, merci infiniment à vous d'avoir accepté de venir vous entretenir avec nous à l'antenne de la Liberté. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci à vous toutes et à vous tous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pouvez l'écouter à nouveau en vous rendant sur notre site www.bethillel.org en allant dans l'onglet « Publications ». Au nom de toute l'équipe de la communauté israélite libérale de Belgique, synagogue Beth Hillel, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et vous dis non pas dans 15 jours puisque nous célébrerons Pessah à ce moment-là, mais à dans un mois.